Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hop. Alors, je préviens tout de suite, avant de commencer, si vous avez une dinde au four, elle risque de cramer. Sauf si vous avez un four évangélique, vous savez, ce four qu'on programme avant de venir au culte. Voilà. Donc, pour dire les choses, ça va être un peu long. Alors, on va commencer par une devinette. Est-ce que vous reconnaissez cette diapo ?
Philippe ? C'est le style Sutterland.
Voilà, exactement. C'est le support des diapos de David Sutterland. Alors, non, je ne vais pas me faire passer par David. Non, je ne vais pas tenter de compter le nombre de fois qu'il y a le mot David dans la Bible. Alors, peut-être que lui l'a fait. Je ne sais pas s'il a compté aussi le nombre de fois qu'il y a Brigitte dans la Bible. Et non, je ne vais pas tenter de faire les mêmes blagues que David. Mais il y a quelques temps, alors ce n'était pas la dernière fois, c'était la fois d'avant, David avait prêché sur le psaume 43. Et donc, on avait vu ensemble quelle était, hop, si j'y arrive, voilà, la différence entre se plaindre ou se lamenter. Et donc, David, ça lui ferait plaisir si je le confonds avec Dieu. On avait vu avec David que se plaindre, c'était parler avec amertume, sans foi, c'était exprimer son mécontentement, c'était aussi larmoyer, pleurnicher, rouspéter, protester, râler. Et par contre, on avait vu que se lamenter, c'était gémir avec tristesse, souffrance, incompréhension et douleur, mais avec une once de foi et de confiance en Dieu. On avait vu que c'était parler avec foi, si faible soit-elle. On avait vu que c'était aussi exprimer sa douleur, déplorer un malheur et en parler à Dieu. On avait vu que se lamenter, c'était se tourner vers Dieu, lui exprimer nos sentiments, lui faire confiance, lui exprimer nos craintes, nos frustrations. Et on avait vu que c'était s'arrêter, s'adresser, s'accrocher. S'arrêter pour exprimer ses souffrances, s'adresser à Dieu pour proclamer sa confiance et s'accrocher à Dieu pour faire preuve de persévérance. Et je me suis arrêté sur ces deux mots. Se plaindre et se lamenter. Et je me suis demandé ce que ces deux mots pouvaient déclencher. Et je propose qu'on s'arrête sur ces mots ce matin. Et donc, on va commencer par le mot « se plaindre ». Alors, se plaindre, c'est très facile. Hein. On est assez fort pour ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire se plaindre, vous n'avez qu'à vous imaginer derrière votre volant et vous allez comprendre tout de suite. Et quand on regarde les mots qui nous ont été proposés par David sur se plaindre, on a des mots comme râler, protester, exprimer son mécontentement. Et donc, à quoi vous ferait penser ces mots? Quelle serait la suite logique quand on commence à se plaindre? Eh bien, c'est la colère. Et je vous parlais du fait de se plaindre au volant. Une fois, on était à Auxerre avec Nathalie, et donc il y a eu un accrochage entre une moto et une voiture. Et forcément, ils ont commencé à se plaindre, et puis ça a dégénéré, ils sont sortis de leur voiture. Enfin, il y en a un qui est sorti de sa voiture, l'autre qui est descendu de sa moto. Ils ont commencé à se battre, et donc ils sont rentrés dans une dynamique de colère. Et la colère, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. On sait que même Jésus a été en colère. Mais le problème avec la colère, c'est qu'on la laisse facilement s'installer. Et au lieu de la maîtriser, c'est elle qui commence à nous maîtriser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul met en garde les Éphésiens en disant que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Si cette colère, elle n'est pas vite maîtrisée, elle devient vite un poison. Elle empoisonne Pardon. Hop, hop. Elle commence par empoisonner le corps. Hein, et c'est pas pour rien que la Bible nous dit dans Proverbe 17:20 qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Donc elle commence par nous empoisonner le corps. Ensuite, elle devient un fardeau parce que quand on est en colère, on doit en subir la peine. Elle égare notre raison et elle nous amène à faire des choses qu'on regrette. Et elle devient incontrôlée et destructrice. Et on finit par blesser non seulement les autres, mais parfois soi-même. Et c'est pour ça que Paul nous met en garde, parce que tout à l'heure, quand j'ai cité la parole, je n'ai pas donné tout le verset, mais les versets complets, c'est Éphésiens 4, versets 26 et 27, qui disent « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Parce que quand on est trop en colère, on peut en effet laisser la place au péché. Et Proverbe 29-22 est encore plus clair sur le sujet. « Un homme en colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. » Donc clairement, quand on rentre dans une colère récurrente, c'est laisser la porte grande ouverte au péché. Alors ce matin, je vous propose de lire une histoire pour illustrer mon propos. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse, au chapitre 4. Et donc on va lire les 12 premiers versets. Donc Genèse, chapitre 4. Les 12 premiers versets. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit des meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre ? Si tu agis bien, tu te relèveras. » Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Et cette histoire, elle est intéressante. Du mazapet au passage. Parce qu'on voit Caïn passer par les quatre états que j'ai cités tout à l'heure. On voit son visage qui commence à s'assombrir. Il commence à se rendre malade, se laisser empoisonner. Et puis, sa colère, elle devient un fardeau pour lui. Comment je le vois ? Parce que Dieu ne change pas. Et donc, il était déjà en mode « Venez à moi, vous tous qui avez un lourd fardeau. » Et quand Dieu voit la colère de Caïn, il ne peut pas le laisser tout seul avec ce poids sur les épaules, et il vient le voir. Et vous avez vu dans le texte, Dieu ne reproche pas à Caïn d'être en colère. Et il ne lui dit pas que ce n'est pas bien d'être en colère. Mais il lui dit de faire attention. Parce que là, il est à un carrefour et il doit faire un choix. Il peut bien agir et apaiser cette colère. On verra comment plus tard. Donc il peut choisir d'apaiser cette colère et de dominer le péché qui est tapis à sa porte. Ou il peut choisir de prendre une autre route, se laisser maîtriser par la colère et se faire dominer par le péché. Et malheureusement, c'est son choix. Il choisit l'étape suivante. Il va laisser égarer sa raison et il ne va pas écouter les sages conseils que Dieu lui donne. Et malheureusement, il arrive à notre dernière étape, une colère incontrôlée et destructrice. Destructrice des autres, hein, puisqu'il va tuer son frère, il va tuer Abel, mais aussi destructrice de lui-même, en mentant et en allant jusqu'à faire des reproches à Dieu, en lui disant « J'en sais quoi, moi ? Pourquoi tu me demandes à moi ? Je suis responsable de mon frangin ? T'as qu'à faire ton job ?» Et il ne le dit pas, mais peut-être qu'il pense « Si tu l'avais fait, on n'en serait pas arrivé là. » Et conséquence, non seulement il a détruit la vie d'Abel, mais il a aussi détruit sa propre vie. Et donc ça, on retrouve ça dans les versets 11 et 12. « Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Alors, pourquoi Cain a gardé et cultivé cette colère? Pourquoi moi je garde de la colère au fond de moi? Parce qu'au moment où il était au carrefour, il avait un choix à faire entre garder le contrôle ou laisser le contrôle à Dieu. Et quand on rentre dans une colère long terme, on refuse d'accepter ce qui est, on refuse d'accepter de ne pas être maître de tout. Et on va laisser s'installer en nous l'aigreur, en pensant qu'on est maître de tout. On va faire des plans sur la comète qui vont nous amener à l'irréparable, pensant naïvement qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout régler par nous-mêmes. Mais le diable, il est malin. C'est juste une illusion. Une illusion de puissance. La colère te donne l'impression de tenir quelque chose, mais en réalité, c'est elle qui te tient. Et le plus dramatique, vous avez vu où ça a amené Cain ? Il a commencé à faire des reproches à Dieu. Mais c'est logique. Si je laisse le péché s'installer dans ma vie, sachant que Dieu a horreur du péché, forcément je vais laisser s'installer une cassure entre lui et moi dans ma vie. Tout à l'heure, j'ai imaginé Cain en train de reprocher à Dieu la situation. Et même si ce n'est pas écrit, peut-être que dans ta propre vie, c'est déjà arrivé. Et malheureusement, j'en parle en connaissance de cause, il y a un moment où rien n'allait, à mes yeux en tout cas dans ma vie, et j'ai fini par rendre Dieu responsable de tout ce qui m'arrivait. Alors merci Seigneur, j'ai tué personne, mais ça, je peux vous dire que je connais très bien, et je vais vous l'illustrer, vous allez sourire, voilà. Et je peux vous dire que ça fait mal aux autres, ça fait mal à soi. Et pire que tout, ça fait mal à Dieu. Et qu'est-ce qui sort de positif de tout ça? La colère, elle nous fait perdre le contrôle de soi. Elle nous rend fous et elle laisse le péché prendre le dessus sur nos vies. C'est pas mal comme état des lieux. Alors pourquoi on laisse le péché prendre le dessus? Parce que, en vrai, finalement, on ne contrôle pas tout. Mais on ne veut pas reconnaître notre faiblesse. Alors, derrière une situation qui nous échappe, il y a toujours celui, vous savez, celui avec un grand C majuscule, qui permet, celui qui ne m'empêche pas, celui qui n'intervient pas, comme moi je voudrais. Ben oui, garder le contrôle, c'est à nous de tout décider. Voilà ce qui arrive. Mais c'est normal, on sait tellement mieux que Dieu. Et rester en colère, quelque part, c'est dire à Dieu, ce que tu as permis n'est pas bien. Tu aurais dû faire autrement. Tu aurais dû protéger, éviter, guérir, faire revenir en arrière. Et puisque tu n'as pas fait ce que je voulais, je ne te fais pas confiance. Je garde le contrôle. Alors cette image, elle est peut-être un peu choquante, mais quand on cultive la colère, c'est exactement ça qui se passe. Alors je suis désolé les amis, mais Cain, parfois, c'est Luc, c'est Mustapha, c'est Anne-Laure, c'est Marc, c'est Olivier. Et on en arrive à ne plus vouloir être réconforté. On veut qu'on reconnaisse qu'on a raison. Et de ce fait, on veut que Dieu reconnaisse qu'il a tort. Conclusion, on se met à la place de Dieu pour juger. On pense que notre version de la justice, elle est supérieure à la sienne. Et on devient Dieu. Ou plutôt, on devient notre propre Dieu. Et ça devient nous, ça devient moi, ça devient toi, le propre Dieu de nos vies. Alors il faut bien comprendre un truc. Oui, les choses ne se passent pas toujours comme je veux. Oui, on m'a peut-être manqué de respect. Oui, on m'a fait du tort. Et peut-être que je crois que je vais rétablir les choses par moi-même, par mes propres forces. Mais Dieu, il n'a jamais promis qu'on contrôlerait nos vies. Ce qu'il a promis, c'est que ce serait lui qui contrôlerait. Pourquoi ? Pour notre bien. Et pendant la lecture du Nouveau Testament qu'on a fait tous ensemble cette année, Dieu m'a ouvert les yeux sur deux versets par rapport à ça. Deux versets qui sont dans Marc et qui nous invitent à lâcher prise. Et donc les versets, c'est Marc 8, 34 et 35. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Je dois renoncer à moi-même, lâcher prise sur mon soi-disant droit à tout gérer, à aller où moi je veux. Je dois perdre ma vie, accepter de ne plus être le maître du jeu, même si je suis blessé. Je dois renoncer à faire payer l'autre pour garder la paix avec Dieu et avec les autres. Et je dois suivre Jésus, lui confier le soin de défendre ma cause, de juger justement, de rétablir les choses en son temps, ou en leur temps, pardon. Alors ce matin, je vous invite vraiment à vous laisser habiter par ce magnifique verset qu'il y a dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et il avait raison, ce brave Pierre. Parce qu'on peut avoir toute la colère du monde. Jacques est très clair sur la question. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. S'il y a un jugement à avoir, Dieu nous demande de lui confier. Cette colère que tu as au fond de toi peut être justifiée. Dieu t'invite à lâcher prise. Arrête de vouloir contrôler la balance judiciaire et laisse ta colère à Dieu, le juste juge. Lâcher prise, c'est se mettre en prière et dire à Dieu, « Seigneur, je ne maîtrise pas cette situation. Je te confie le soin de faire justice et je renonce à mon droit de m'énerver. » Et c'est pas facile à dire, hein. Vous pouvez regarder ce petit garçon, hein. Il fait pas le fier, il fait pas le malin, hein. On le voit dans son regard. Mais il sait que c'est la bonne chose à faire, et il le fait. Et il remet tout entre les mains de Dieu. Alors si je reviens à notre histoire, qu'aurait dû faire Caïn ? Au lieu de se plaindre, peut-être qu'il aurait dû se lamenter. Voilà, et donc on a vu que se lamenter, c'était exprimer sa douleur, déplorer un malheur, et en parler à Dieu, se tourner vers Dieu, lui exprimer nos sentiments, placer notre confiance en lui, lui présenter nos craintes, nos frustrations, s'arrêter, s'adresser et s'accrocher. Et Caïn, il aurait dû entrer en communication avec Dieu, surtout que Dieu lui en avait laissé l'occasion. Il aurait dû s'arrêter et prendre le temps de parler avec Dieu au lieu de l'envoyer bouler. Il aurait dû s'adresser à Dieu pour lui exprimer sa déception, son incompréhension. Et il aurait dû s'accrocher à Dieu et lui confier toute la situation. Alors comment il aurait pu faire ça ? Il aurait pu penser qu'il avait mal agi et demander pardon à Dieu, se repentir. Et s'il avait quelque chose à reprocher à son frérot, à tort ou à raison, dans tous les cas, il aurait dû le pardonner. Et voilà la deuxième conclusion à laquelle je suis arrivé, après la première où j'ai dit que se plaindre, c'était laisser place à la colère. Se lamenter, c'est laisser la place à Dieu et au pardon. Et pardonner, c'est comme arrêter une colère. C'est pas une conséquence, c'est pas conditionné. C'est une décision à prendre et ça se fait en un claquement de doigts. C'est pas simple, mais c'est très facile. Alors je vais vous donner un exemple. Imaginez un jour que quelqu'un vous coupe le bras, volontairement ou involontairement, peu importe. Au début, on peut comprendre que vous ayez du mal à encaisser. Hein, ça change complètement votre vie, vous vous retrouvez handicapé, vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez, peut-être que vous ne pouvez plus faire votre travail, vous allez peut-être arrêter un loisir. Mais il y a quand même un moment où il va falloir stopper cette colère. Il y a un moment où il va falloir pardonner. Parce qu'en plus, celui qui vous a fait ça, votre colère, ça ne change rien pour lui. Peut-être qu'il est à la plage sous les cocotiers, à l'autre bout de la planète, avec un bon cocktail, en train de faire la bronzette. Ça ne change rien chez lui. Alors non seulement vous avez un bras en moins, ce qui vous rend la vie peut-être pas facile, mais en plus, vous avez toute cette colère qui vous rend aigri. Et peut-être que vous êtes même désagréable avec ceux qui vous entourent et qui, eux, ne vous ont rien fait. Et quelle est la seule chose que vous puissiez faire pour pardonner si vous conditionnez ? Eh bien, il n'y a qu'une solution. Il faut attendre que le bras repousse. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça n'arrivera jamais. Et donc il y a un moment, il va falloir prendre la décision. Pardonner, ce n'est pas la conséquence de quoi que ce soit. Je peux vous donner mon témoignage personnel dans les très très grandes lignes. Mais j'étais très en colère contre Dieu. Et Dieu a permis que sur un week-end, il y ait trois frères dans l'église qui m'ouvrent les yeux. Et le dimanche, j'ai pris cette décision de ne plus être en colère contre Dieu. Et ça s'est fait comme ça. C'était pas simple, mais c'était très facile. Et j'ouvre juste une petite parenthèse, mais ça montre un des intérêts de vivre sa foi en communauté. Parenthèse fermée. Et comme Caïn, j'ai pardonné Dieu alors qu'il n'avait rien fait. En d'autres mots, je me suis repenti. Et qu'est-ce qui a changé autour de moi pour que je prenne cette décision ? Rien du tout. Parce que ne plus être en colère, parce que pardonner, ce n'est conditionné à rien du tout. Et d'ailleurs, si je lis Marc, chapitre 11, le verset 25, il n'y a aucune condition qui est citée. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. C'est pas écrit « si ceci, cela, pardonnez ». Même, on voit là, la personne, elle est en train de prier, et si elle se rend compte qu'elle doit pardonner quelqu'un, elle doit s'arrêter et pardonner la personne. Et la seule condition, c'est notre volonté. Le pardon, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Et c'est une décision voulue par Dieu. Alors, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, Colossiens 3, 13. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et juste si quelqu'un pensait que, oui, c'est écrit, mais c'est qu'une option, hein, Matthieu est très clair sur la chose et il nous rappelle combien c'est important. Matthieu 6, versets 14 et 15. « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors ce matin, j'ai parlé de se plaindre en opposition à se lamenter. J'ai parlé de la colère en opposition au pardon. Et en creusant la parole, c'est intéressant de voir qu'il y a un véritable lien entre ces deux notions. Et je vous propose de vous lire deux passages. Un premier qui est dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 26 à 32. Donc, chapitre 4, versets 26 à 32. « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » On retrouve le même discours que Dieu avait avec Caïn. « Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. » Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc on voit vraiment qu'il y a un réel lien entre le fait de ne pas ou de ne plus être en colère et de pardonner. Et je vous propose un deuxième passage similaire, c'est dans Colossiens au chapitre 3, les versets 8 à 13. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Donc on voit que cette colère récurrente appartient à notre ancienne nature. Cet homme nouveau se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Laisser la colère s'installer, c'est laisser la place au diable. Et c'est se rendre incapable de pardonner. Alors que pardonner, comme Dieu l'invite à le faire dans sa parole, c'est couper net cette mauvaise dynamique avant qu'elle nous pourrisse de l'intérieur et qu'on commette des dégâts qui soient irréparables, tout comme Caïn et bien d'autres. Alors ce matin, on ne va pas lire Galates 5 sur les fruits de l'esprit, parce qu'on a déjà vu beaucoup de passages bibliques, et puis l'heure tourne. Mais je voulais quand même qu'on regarde ce qui appartient à l'homme sans Dieu, d'après ce passage. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Mais pour les héritiers du royaume, c'est le fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors peut-être que ce matin, ça pique un peu, et tous ces beaux mots, parfois on les connaît même par cœur, mais comment ils résonnent dans ta propre vie ? Parce que non seulement il n'y a pas de condition pour le pardon, non seulement on ne doit pas attendre que notre bras repousse, mais comme nous le rappelle Matthieu, je dois pardonner de façon illimitée. Et après ce verset, Jésus nous raconte une parabole, vous savez, l'homme qui n'a pas pardonné pour 100 deniers, alors qu'on vient de lui pardonner pour 10 000 talents. Alors j'ai regardé les équivalences. Un talent, c'est 6 000 deniers. Donc en gros, il devait 60 millions de deniers contre 100 deniers que lui allait réclamer. Et quel a été le résultat ? Il a été laissé au bourreau. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Mais c'est qui ces bourreaux ? Quand on garde notre colère, qu'on ne pardonne pas. L'amertume, l'aigreur, la noirceur, l'isolement, la tristesse, la dépression. Et malheureusement, il y a des conséquences. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors si vous êtes chargé d'un fardeau trop plein de colère, répondez à l'appel de Jésus qui vous invite et vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Je connais une personne qui était très en colère contre son père, à tel point qu'elle ne lui parlait plus du tout. Et ça a duré des années. Puis un jour, dans une discussion, il me dit « Tu sais, Luc, je me suis réconcilié avec Dieu et je me suis réconcilié avec mon père. » Et il a décidé, comme ça, c'était pas simple, mais c'était facile, de retourner vers son père et de le pardonner. Et ça a changé toute sa vie. Et aujourd'hui, il vit à l'étranger, mais il est ravi de pouvoir prendre un billet d'avion et d'aller passer une semaine, 15 jours avec son père, échanger avec lui, passer du temps avec lui. Et ça l'a transformé, ça a tout changé dans sa vie. Alors je vais vous dire quelque chose peut-être surprenant, mais peut-être que la première personne à pardonner, c'est vous-même. Peut-être que ça fait tellement longtemps que vous avez enfoui cette colère en vous que vous n'osez même plus venir à Jésus. Alors j'ai une bonne et une moche nouvelle pour vous. Pourquoi moche ? Parce que Jésus a été condamné alors qu'il était innocent. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'au travers de sa mort sur la croix, on peut en tirer 4 leçons d'encouragement ce matin pour nous. La première leçon, c'est que Jésus, il avait tout pouvoir pour contrôler, pour punir, pour venger, pour corriger. Il aurait très bien pu dire, surtout qu'il était innocent, « C'est moi qui prends le contrôle. » Mais non, même s'il avait probablement de bonnes raisons d'être en colère, il a laissé le contrôle à Dieu. Il a lâché prise. Et il nous a enseigné la phrase clé, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une phrase clé, parce que c'est le chemin que Jésus t'invite à prendre. Éphésiens 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Deuxième leçon, Jésus, il aurait pu appeler 12 légions d'anges. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. Il aurait pu juger ses bourreaux et tout retourné du revers de la main. Mais il a tout laissé au juste juge. Et il nous a laissé un exemple pour qu'au moment où tu es victime d'une injustice, toi aussi tu puisses remettre cela au juste juge. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21-24. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Troisième leçon. Jésus, il est là, sur la croix, et personne ne lui a encore demandé pardon. Pas Judas, pas les pharisiens, pas le Sanhédrin, pas les soldats, pas Pilate, pas même Pierre. Mais lui, il prie. Il prie son Père pour qu'il les pardonne. Pour qu'il les pardonne le premier. le pardon de Jésus, il ne dépend pas de l'attitude des autres. C'est une décision qui vient de son cœur et qui prend comme ça. C'était sûrement pas simple, mais c'était facile. Il n'a pas attendu que les clous ressortent et que les plaies disparaissent. Tout ça pour que je puisse, moi aussi, être prompte à pardonner, comme Jésus. Luc 23, 34. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quatrième et dernière leçon, encore des pécheurs. Jésus, il n'a pas attendu qu'on prenne conscience de nos péchés. Il n'a pas attendu qu'on se repente. Il n'a pas attendu qu'on se convertisse. Il n'a pas attendu qu'on se fasse baptiser. Avant tout ça, il est mort pour toi. Il est mort pour que le jour où tu accepterais de le suivre, tu serais automatiquement pardonné par Dieu, sans condition, quel que soit ton passé obscur. Et toi, tu attends que ton bras repousse pour pardonner? Prends exemple sur Jésus et libère-toi de cette colère, de ce poison. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on pourrait dire tant d'autres choses ce matin, mais il est temps de conclure. Alors j'ai rédigé quelques phrases de conclusion. La personne qui ne pardonne pas pense qu'elle punit l'autre. En réalité, c'est elle qui reste prisonnière du passé. La personne qui rumine une injustice pendant qu'elle garde les yeux ouverts, pense qu'elle garde les yeux ouverts, en réalité, elle s'aveugle sur tout le reste. La personne qui refuse de lâcher prise pense qu'elle est forte. En réalité, elle est devenue dépendante de sa propre amertume. La colère, c'est vouloir contrôler ce qui nous échappe. La foi, c'est lâcher prise pour que celui qui contrôle tout et qui est le juste juge prenne le relais et contrôle à notre place. Et dernier point, nous ne sommes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, parce que le fardeau du contrôle nous écrase. Et la croix nous invite à déposer ce fardeau, à pardonner et à recevoir la paix. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre vie. Celui qui contrôle l'univers a donné sa vie pour vous. Et si vous lâchez prise, je vous garantis, vous ne perdez rien, vous gagnez tout. Et ce matin, on va prendre la scène et on va pouvoir se rappeler que Christ est mort pour vous libérer de votre colère. Il est ressuscité pour que vous puissiez être pardonné et que vous puissiez à votre tour pardonner comme lui l'a fait. Alors je vais vous demander de fermer les yeux et on va se mettre en mode prière. Et je vais te demander d'aller sonder au plus profond de ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une colère enfouie contre un ami, un collègue, une personne de la famille, un frère ou une sœur en Christ. Ou peut-être, et sûrement si tu y réfléchis vraiment, une colère contre Dieu. Je ne suis pas là pour te juger, je suis passé par là. Et Jésus qui t'aime vraiment n'est pas là non plus pour te juger. Mais il veut vraiment que tu lui en parles. Et avant qu'on prenne la scène, je veux que tu prennes ce moment pour y penser. Peut-être pour te demander pardon. Peut-être pour que tu demandes pardon à Dieu. Lui dire que tu regrettes. lui dire que tu veux te repentir. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 29, il est dit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. S'il te plaît, fais que Christ ne soit pas mort en vain dans ta vie. » Peut-être que c'est trop dur pour toi, là, tout de suite. Comme je t'ai dit, ni moi ni Jésus te jugent. Moi, il m'a fallu des mois et plusieurs frères. Mais viens parler à quelqu'un à la fin du culte. Tu es dans la maison de Dieu et c'est notre devoir de te venir en aide. Alors, je vais faire venir quatre frères pour m'aider avec la scène. Je vais demander à Mathias, Philippe, Nasser et Théo, si vous voulez bien. Et j'ai prié pour ce temps de scène. Seigneur, on te remercie pour ce temps que tu nous as donné ce matin pour nous poser, pour nous peut-être nous rappeler les colères qui sont enfouies en nous. Tu nous donnes cette occasion de nous adresser à toi, de te demander de nous venir en aide, de nous aider à pardonner. Comme toi tu l'as fait, et pourtant tu as été insulté, humilié, condamné, alors que tu étais innocent, cloué sur la croix et mis à mort. Mais tu es ressuscité pour qu'on puisse prendre ton exemple, qu'on puisse pardonner aux uns et aux autres. Et on te demande ce matin, en souvenir de ce que tu as fait pour nous, de nous aider à en faire autant, Seigneur. Comme on l'a vu ce matin, c'est pas simple, mais ça peut être très facile. Et on te demande vraiment de nous aider, de pouvoir prendre cette sainte scène en se rappelant que tu es mort pour nous, pour qu'on puisse déposer tous nos fardeaux au pied de la croix, qu'on puisse se décharger sur toi et que tu puisses nous donner ce repos dont nous avons tant besoin. Seigneur, je te remets ce temps de scène. Que tu puisses bénir chacune et chacun d'entre nous. Et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Sentez-vous libre de prendre ce temps pour prier à haute voix ou dans votre tête. Prendre ce temps pour demander pardon. Prendre ce temps peut-être même pour pleurer. À l'image de Jésus. Et rappelez-vous qu'on n'est pas là pour vous juger, mais pour vous soutenir et pour vous aider. Et que Jésus est là pour porter vos fardeaux à votre place. Soyez bénis pendant cette scène. Alors, j'ai commencé cette prédication en mettant David à l'honneur. Donc je vais le mettre à nouveau à l'honneur pour la conclusion finale. Et en fait, lors de son message sur psaume 34, il nous a livré ce qu'il a appelé les quatre oreillers. Je ne sais pas pourquoi il a appelé ça des oreillers, mais en tout cas, je les trouve super et très adaptés à ce qu'on a vu ce matin. Le premier oreiller, c'est que le Seigneur est souverain. Il règne au-dessus de tout. Je dois refuser de vouloir tout contrôler dans ma vie. Le deuxième oreiller, le Seigneur est bon, il œuvre en faveur de son peuple. Je dois renoncer à chercher à tout comprendre dans ma vie. Troisième oreiller, le Seigneur est sage, il lui est impossible de se tromper. Je dois lui faire confiance en tout temps et pour toute chose. Et quatrième et dernier oreiller, le Seigneur est éternel, il vit en dehors du temps, et je dois apprendre la patience. Et évidemment, j'ai quand même laissé ma petite touche, et donc je vous laisse avec un verset final qui va devoir maintenant driver tout le reste de votre vie, dans Proverbes, au chapitre 19, verset 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Merci pour votre longue attention. Bon dimanche, bonne semaine à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent.